Épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 2. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous sommes dans la conclusion de cette épître. Dans les versets suivants, Paul transmet les salutations de plusieurs frères qui sont avec lui. C'est toujours intéressant, les conclusions d'épître, parce qu'il y a toute une série de petits conseils, d'exhortations. Ici, en terminant, comme souvent, Paul encourage à persévérer dans la prière, parce qu'il sait ce que nous sommes. On a vite tendance à se relâcher dans ce domaine, dès qu'on est moins porté, dès que l'Esprit de Dieu, on le sent moins, on a vite tendance à se relâcher. Il exhorte aussi à prier avec des actions de grâce, et finalement, de cultiver les actions de grâce, ça permet de persévérer dans la prière, parce que rappelons-nous que l'objectif de la persévérance dans la prière, ce n'est pas d'insister dans nos demandes. La priorité dans la persévérance, c'est de cultiver notre relation et notre communion avec Dieu. Et puis, il demande à prier pour lui, pour eux, lui qui est dans les chaînes, pour qu'il puisse avoir une porte qui s'ouvre, pour qu'il puisse continuer d'annoncer l'Évangile. Il demande à pouvoir annoncer l'Évangile comme il se doit. Nous sommes aussi appelés à être des témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas tous appelés à être prédicateurs, on n'a peut-être pas tous reçu un don de la parole, mais nous sommes tous appelés à proclamer l'Évangile, à annoncer Jésus, à témoigner de Jésus. Jésus a dit « Vous serez mes témoins ». Et ça fait partie de notre mission, de notre feuille de route. Et malheureusement, trop de chrétiens ne témoignent pas. J'ajouterai beaucoup d'autres, et je me mets dedans, on ne témoigne pas assez. Alors je ne sais pas quel est le chrétien qui peut dire « je témoigne assez ». Et j'ajouterai en plus que des fois j'ai vu des personnes beaucoup témoigner et on préférait qu'elles se taisent un peu parce qu'elles ne donnent pas toujours envie, elles présentent un Jésus austère. Donc dans le domaine du témoignage, on a tous besoin de progresser, soit pour en témoignage, soit pour mieux rendre témoignage. On ne témoigne pas pourquoi ? Parce qu'on craint. On a peur des réactions, peur du rejet, peur de l'incompréhension, peur des regards. On ne témoigne pas aussi par apathie ou par indifférence. On est tellement préoccupé par notre train-train quotidien qu'on oublie le sort final éternel de certains. Et puis, je dirais, on ne témoigne pas peut-être aussi par manque d'assurance. Qu'est-ce que je vais me répondre ? Si on me pose la question là-dessus, comment je vais ? Et par crainte ou par manque d'assurance, on ne va pas oser s'engager pour parler de Jésus. Je le rappelle, être témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas une option. Et nous ne sommes pas seulement témoins par notre manière de vivre. Même si ça commence là, nous devons parler de Jésus. Ça doit être un objectif. Dans ce passage, dans ce que nous avons lu, Paul nous donne plusieurs conseils pour progresser dans le témoignage. Il parle ici de ceux du dehors. C'est une expression propre à Paul qui revient 4 fois dans le Nouveau Testament. Et cette expression, elle trace une ligne claire de démarcation entre ceux du dedans et ceux du dehors. C'est presque une manière de parler sectaire, mais c'est comme ça. Il y a ceux du dedans, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui font partie de la grande Église, et il y a ceux du dehors. Et nous, on ne doit pas se tromper. Avec ceux du dedans, on va les considérer et les regarder comme des frères. Avec ceux du dehors, Notre but, c'est de les faire entrer. On va être des témoins de Jésus-Christ. Dans les versets que nous avons lus, il est intéressant de noter que dans les conseils que Paul donne dans l'évangélisation, dans le témoignage, il cherche un équilibre entre la dépendance et la discipline, entre l'inspiration et l'effort. Et je crois qu'effectivement, il y a un équilibre à trouver. Une personne me disait un jour, il faut rendre témoignage quand le Saint-Esprit nous y pousse. Et je lui avais répondu, tu risques de ne pas rendre souvent témoignage. Parce que si je rends seulement témoignage quand je suis poussé par le Saint-Esprit, avouons qu'on ne le fera pas souvent, pour peu qu'on n'y soit pas sensible ou pas attentif, je crois qu'il y a les deux. Il y a un effort à faire, une discipline, une disposition de cœur. On doit être discipliné de ce côté-là. Et en même temps, c'est vrai, on va être attentif à la voix de l'Esprit. Quand le Seigneur peut des fois nous orienter vers quelqu'un, alors des fois on tâtonne, des fois on se plante, des fois on n'est pas sûr de son coup. Mais je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre l'inspiration, la dépendance et la discipline. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais simplement considérer les conseils que Paul nous donne. Le premier, il nous dit « Priez pour que Dieu ouvre des portes. » Pour que Dieu ouvre une porte à notre parole. Il nous faut prier pour que Dieu nous ouvre des portes. Smith Wigglesworth, qui fut l'un des plus grands évangélistes du début du XXe siècle, c'est l'homme aux 36 ou 37 résurrections, il a prêché l'évangile dans le monde entier, il y a eu énormément de guérisons à l'écoute de sa prédication. Chaque matin, il priait pour pouvoir rendre témoignage à une âme. Le grand évangéliste. Et ça, j'aime, parce que des fois, il y a des grands évangélistes, ils n'ont pas trop le souci. Paul, on le sent qu'à un moment donné, il parle de répondre à chacun. Donc lui, qui est aussi ce grand apôtre, il a, pour une âme, il allait aussi consacrer beaucoup d'efforts. Et je crois que c'est bien de commencer par là, peut-être de se discipliner dans cette prière. Seigneur, ouvre une porte pour que je puisse rendre témoignage aujourd'hui. Je suis convaincu que si on maintient cette prière de manière régulière, les portes s'ouvriront. Il y aura des occasions que Dieu donnera. Commençons ainsi. Demandons à Dieu d'ouvrir des portes. Alors il n'ouvrira peut-être pas des portes auxquelles on pensait, pas dans le lieu qu'on avait imaginé. Ça ne sera peut-être pas la personne sur qui on aurait misé, mais ça, on s'en fiche un peu. Lui sait. Lui sait. Le deuxième conseil, il est dit... et le faire connaître comme je dois en parler. C'est traduit dans d'autres versions, en parler clairement comme je le dois. Le deuxième conseil, c'est communiquer clairement la personne de Jésus. Il est question du mystère de Christ. Jésus, c'est un mystère. C'est un mystère pour celui qui n'a pas la foi. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il est dit que l'homme naturel ne peut saisir, il ne peut comprendre. Et là où il va buter, c'est sur Jésus. Jésus sera une pierre d'achoppement pour lui, un rocher de scandale. Parce que Jésus, on est obligé de le saisir avec la foi et avec le secours de l'esprit. Jésus, c'est un mystère parce que c'est Dieu manifesté en chair. L'incarnation, déjà nous, on a du mal à l'expliquer. Alors quelqu'un qui... Et puis, la mort substitutive de Jésus à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Ça, il faut une révélation. Sa résurrection, sa glorification. Et maintenant, il intercède dans le ciel et il vit dans mon cœur. Tout ça, c'est inexplicable sur un plan humain. Et il faut une révélation. Mais nous, on a besoin d'apprendre à en parler clairement. Alors, on n'a pas besoin de savoir tout le grand vocabulaire rédemption, mais qu'on puisse expliquer ces mots-là. Qu'on puisse dire, Jésus, il est venu, il s'est fait homme, il a pardonné mes péchés, il est venu dans mon cœur, il vit là, il est vivant. Ça, on peut le dire. On peut le dire avec ses mots, mais on peut le dire clairement. Et je crois que c'est vraiment important de parler de Jésus clairement. Jésus est incontournable. Quand on rend témoignage, c'est vers Jésus qu'on veut pointer. Si on veut qu'il y ait la révélation, la nouvelle naissance, qui est l'action de l'esprit, on doit aller un petit peu comme les quatre amis qu'ont porté leur ami paralytique, ils ont cherché à le placer sous les regards de Jésus. Une fois que le contact est établi, il va se passer quelque chose. Notre but, il est là, c'est d'amener à Jésus-Christ et d'amener Jésus-Christ vers eux. Il y a les deux. Mais Jésus est incontournable. Quand nous rendons témoignage, on parle de Dieu, mais on parle du Dieu qui s'est manifesté en chair et qui est venu dans la personne de Jésus-Christ. Le troisième conseil que Paul nous donne, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Alors voilà un conseil qui demanderait à être étudié, examiné. Qu'est-ce qu'il veut dire en parlant de sagesse ? Surtout qu'on sait que le Nouveau Testament parle de la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Mais en même temps, la sagesse d'en haut, par ceux de l'extérieur, elle est perçue comme une folie. Enfin, je vous embrouille un petit peu. Ce qui est important, c'est d'avoir la sagesse. Quelle sagesse ? Alors je dirais d'abord que ce conseil, il est donné dans le cadre de personnes qui veulent rendre témoignage. Il est dans l'idée de parler avec sagesse. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a des textes qui disent, comme l'insensé, quand même quand il se tait, il passe pour sage. Hein, c'est pas là, c'est pas. Des fois, on va se taire pensant qu'on est sage. Parle dans le domaine du témoignage. Le but, c'est de parler avec sagesse. Alors, la sagesse, dans le témoignage, je crois que ça peut évoquer plusieurs choses. Ça évoquera d'apprendre, de chercher à se mettre au niveau de celui avec qui je parle. Je vais chercher à me mettre à son niveau. Je vais essayer de le rejoindre dans sa compréhension. Je vais essayer de sortir de mon langage ou jargon, hein, parce que des fois, on a nos mots, mais de se mettre au niveau. Hein, des fois, on est un petit peu dans notre bulle et on a besoin là de se mettre, de se faire juif avec le juif, grec avec le grec, comme dit Paul, de se mettre à un certain niveau. Dans la forme, on ne change pas le fond. La sagesse dans le témoignage, je crois aussi qu'elle consistera à proclamer la vérité plutôt que l'erreur. Si on parle avec un musulman, on ne va pas tirer sur Mahomet. Hein. Bon, c'est fini. Hein. Mais on va parler de Jésus. On va encourager à vivre quelque chose avec Jésus. Et s'il vit quelque chose avec Jésus, il se détachera lui-même de Mahomet. Mais nous, on veut pointer vers la vérité plutôt que vers l'erreur. Alors, des fois, on est obligé de dénoncer l'erreur. Mais comprenons, notre objectif, c'est d'amener à Jésus. La sagesse dans le témoignage consistera à parler suffisamment et pas trop. Je suis toujours impressionné quand je vois Jésus. Il guérit quelqu'un et il dit une petite phrase. Hein. Il ne bombarde pas de versets. Hein. Ou des fois, quand on tient quelqu'un, il est prêt à nous entendre et on lui raconte tout, on lui en dit. À un moment donné, il ne le supporte plus. Ça ferait presque après, c'est, on les recroise dans la rue, ils vont nous fuir. Hein. Et l'autre, il m'a tenu pendant un quart d'heure, 20 minutes, je n'ai pas pu m'en débarrasser. On ne veut plus entendre. On a besoin de parler avec sagesse à ce niveau-là, dans le débit, dans le volume, parler à propos, comme laisser un petit goût d'envie de revenir. Je crois aussi que la sagesse, elle doit consister à chercher à rejoindre l'individu dans ses problèmes, dans ses propres combats, dans ses difficultés, là où le péché le tient. Hein, c'est là où on veut tomber juste et mettre en évidence que Jésus-Christ est la solution pour délivrer du péché. Je crois que voilà, la sagesse, ça peut parler avec sagesse, ça rejoint un petit peu tout ça. Bien sûr, ça, il y a la pensée de parler avec l'inspiration et l'onction parce que c'est un esprit de sagesse qui nous anime. Le quatrième conseil, racheter le temps. Alors vous le savez, je l'ai déjà dit et je le redis, ça peut être traduit « saisissez les moments favorables ». Le temps, ici, ce n'est pas le mot « chronos », c'est le mot « kéros ». Le mot « chronos », c'est le temps qui s'écoule. Ici, c'est le temps de Dieu, le « kéros », les moments, les occasions, saisissez. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut prier pour que Dieu nous ouvre les portes. Et bien, une fois qu'il nous a ouvert la porte, il faut la saisir. Il faut saisir l'occasion que Dieu nous donne. Alors, pas toujours évident. C'est dans l'épître de Paul à Timothée, Paul encourage Timothée à saisir les occasions favorables ou non. Quelle est la différence ? En quoi une occasion n'est pas favorable ? Une occasion, en tous les cas, il y a des occasions des fois favorables où les gens vous posent des questions, ils viennent à vous. Donc là, c'est vraiment, des fois, c'est moins favorable. Mais en tous les cas, il nous faut apprendre à saisir les occasions. Il y a des saisons, des fois, dans la période, Il y a des moments, des fois, pour parler de Jésus, même si je crois qu'on peut semer, je ne suis pas un jardinier, mais je crois qu'on peut semer quasiment à toutes les saisons. Il y a toujours un légume de saison, en tous les cas. Donc, mais je crois que c'est important à ce niveau-là, de saisir les occasions, d'être attentif, de... Cinquième conseil, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. La grâce, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'unique. C'est ce qui rend l'Évangile unique. C'est irremplaçable. Les hommes, ils ont inventé la religion. Christ a amené la grâce. La grâce, ça vient d'en haut. C'est quelque chose d'immense. Ici, il n'est pas dit de parler de la grâce. Pourquoi ? Parce que quand on parle de Jésus-Christ, c'est la grâce qu'on présente déjà. C'est lui qu'on met en évidence. Mais il est dit de parler avec grâce. Parce que, finalement, parler de Jésus-Christ sans la grâce, il y a quelque chose qui sonne faux. Et je crois qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit respirer la grâce. Et des fois, ça respire plus le légalisme ou autre chose. On veut respirer la grâce. Paul, à un moment donné, il respirait la haine et la menace. Donc ça le sentait. Mais après, il respirait la grâce. Et nous, on veut être de ces gens qui respirent la grâce. Vous savez, la grâce, c'est quelque chose que nous, chrétiens, déjà, on a du mal à expliquer. Et il nous faut déjà beaucoup de temps pour l'assimiler et la poser. Comprendre que le rapport avec Dieu marche indépendamment des mérites, ça met du temps à se poser. Ce n'est pas facile, parce qu'on est façonné autrement. Alors, ceux qui ne connaissent pas, s'ils n'ont pas expérimenté, la grâce, ça ne veut rien dire. Et même si on leur donne une définition, ils ne la comprendront pas. Par contre, ils peuvent sentir ce petit truc, ce plus qu'on a. Cette petite différence qui fait qu'ils ne se sentiront pas jugés à notre contact, tout en leur pouvant parler fermement, parce que je crois que parler avec grâce, ce n'est pas parler avec légèreté. On va dénoncer le péché. Mais en même temps, je crois qu'on va donner une solution. On va ouvrir une porte. Je crois que c'est ça, dans tous les cas, qui me paraît important. Mais la grâce, c'est quelque chose qui doit être présent dans notre manière d'être et de parler. Ça rejoint Corinthiens 13, ce texte qui est souvent lu un petit peu partout. Mais la charité, l'amour, la grâce, elle excuse tout, elle pardonne tout, elle supporte tout. On connaît ce texte, en tous les cas, elle doit caractériser notre manière d'être. Il est question de sel, elle est comparée à du sel. La grâce peut être illustrée par la saveur du sel et on comprend en tous les cas que s'il en manque, il manque quelque chose, mais s'il y en a trop, c'est pas bon. Et la grâce, c'est quelque chose qui doit être bien dosé. Parce que quand elle manque, c'est raide, c'est sec. Mais quand il y en a trop, quand on la transforme un petit peu en... C'est quelque chose qui doit être bien dosé comme le sel. Mais je crois qu'en tout cas, je le dis, mais la grâce, elle ne nous empêche pas de parler de repentance, d'être ferme avec le péché. Mais on donne toujours une solution, une possibilité. Je le dis bien, il y a des personnes qui ne comprendront pas la grâce. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais qu'ils puissent commencer à la ressentir à notre contact quand on leur parle de Jésus, celui qui pardonne les péchés, celui qui change les vies. La grâce, c'est quelque chose qu'on doit respirer. Et puis, le dernier conseil, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Répondre à chacun individuellement. Tous les hommes sont des pécheurs et tous les hommes se battent avec les mêmes péchés. Orgueil, égoïsme, hypocrisie, mensonge. Ça, c'est dans le cœur tous. Quand quelqu'un vous dit « t'as jamais péché », vous pouvez y aller là. On peut appuyer dessus et... Des fois, il y a des gens où j'ai jamais fait de mal. Quand t'as jamais fait de mal. Et en même temps, le péché tient les hommes, chacun... Je dirais, il y a les mêmes circuits. C'est le même processus, la même emprise, mais les gens ne sont pas tous au même niveau. Là, il n'y a pas la même conscience par rapport au péché. Il n'y a pas le même clergé, il n'y a pas le même combat. Le sentiment de défaite, il n'est pas au même endroit. Et nous, on doit chercher ça là. Si on arrive à tomber juste quand on parle, là, on a... Et c'est là où on a vraiment besoin du secours de Dieu. On a besoin de l'inspiration d'avoir les mots justes parce que des fois, nous, on ne sait pas trop. Hein, comme des fois dans la prédication, des personnes viennent et elles ont l'impression que leur vie est dévoilée parce que le Saint-Esprit est en train de les atteindre là où ils se battent, là où il y a la lutte avec le péché. Il y a un dévoilement dans leur cœur. On a besoin de ce secours-là. Il y a un besoin d'écoute. Je crois que le témoin, le bon témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui bombarde de versets et qui a le dernier mot. Hein. Mais le bon témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui a un gros débit, qui va tellement dire que l'autre, il n'a plus rien à dire, mais il pense qu'à se sauver. Mais le bon témoin de Jésus-Christ, c'est celui qui va savoir aussi écouter, hein, pour savoir comment répondre à chacun. Répondre, ça veut dire qu'on a écouté. Ça veut dire qu'on a perçu certaines choses. On a perçu où est la souffrance. Et ça, je crois que c'est important pour nous. Sans l'écoute, c'est une qualité, hein, qualité qui nous manque souvent. On ne sait pas écouter. On apprend à écouter, mais on a du mal à écouter. Hein. Même des fois, quand les gens nous parlent, on pense déjà à ce qu'on va répondre. Et on n'écoute même plus à un moment donné. On a du mal à écouter. Mais je crois que dans le témoignage, c'est bien d'apprendre à écouter. Puis je crois que c'est là où le Saint-Esprit peut nous inspirer, nous aider à comprendre, à discerner, peut-être avoir les quelques mots qui seront justes. Voilà 6 conseils pour nous aider à remplir notre mission d'être témoin de Jésus-Christ. C'est notre vocation. Cherchons à progresser. Ne disons pas « place aux jeunes ». Non, 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 non. Allez, les anciens, on a des choses à dire dans le témoignage. Les jeunes, n'attendez pas « quand je serai plus vieux ». Non, non, non. Il faut s'y mettre le plus vite possible. À tout âge, dès qu'on appartient à Jésus-Christ, c'est bon de se mettre au témoignage. Et puis de ne pas se relâcher, d'être attentif, de prier pour ça. Je crois que si certains, peut-être, ont reçu plus que d'autres, moi, je suis convaincu que progresseront et vivront de belles choses ce qu'ils désirent, ceux qui prient. Alors, priez pour que Dieu ouvre des portes, cherchez à parler clairement de Jésus, ce qu'il a fait et qui il est, tout simplement. Rappelons-nous ensuite d'être sage avec celui de Dieu dehors, saisir les occasions qui se présentent, parler avec grâce, respirer la grâce, et puis apprendre à répondre à chacun individuellement, apprenons à écouter. Que le Seigneur nous aide à être de bons témoins. On veut être des témoins, mais de bons témoins de Jésus-Christ. On peut prier pendant quelques minutes encore dans cette direction. Merci de nous aider, merci de m'aider, Seigneur, à être un témoin de Jésus-Christ. J'ai un travail qui me permet souvent de parler à des personnes nouvelles, mais en même temps, je ne veux pas me cacher derrière ce travail. Je veux être un témoin, Seigneur, assidu, affûté, qui saisit les occasions et même des fois qui les provoque. Seigneur, aide-moi. Et je prie pour que tu m'aides, tu ouvres des portes. Et je prie pour que je sache saisir les occasions que tu me donneras, favorables ou non. Seigneur, aide-moi dans mon témoignage. Aide-nous, Seigneur. Je prie pour ceux qui ne témoignent pas du tout. Réveille quelque chose, Seigneur, dans le cœur. Au nom de Jésus, amen.